Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Salut à tous les cinq.
Bonsoir, Anne-Elisabeth.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Demain, Karim Benzema sera fixé sur son sort. En attendant, retour sur cette affaire qui secoue le foot français depuis 6 ans.
Mohamed, votre story du jour.
Bientôt la fin du secret médical à l'école. Je vous explique tout ce soir.
Pierre, dans votre œil ce soir.
Nous irons avec le nouvel Astérix chercher le griffon chez les Sarmates.
Patrick, votre édito du jour.
Comment traiter Zemmour à la télé?
Et Mathieu, dans votre 5 sur 5.
Moi, je suis tombé de ma chaise ce matin, Babette. Les petites filles touchent moins d'argent de poche que les petits garçons. Les inégalités de genre, c'est dès la famille.
Oh, c'est un scandale qu'on dénonce ce soir dans C'est à vous. Autant de sujets que l'on soumet à nos invités avant de servir des Saint-Jacques en coquille à Zaz et Florent Manoudou qui sont nos invités du dîner. Des Saint-Jacques en provenance directe des Côtes d'Armor, là d'où vient notre chef du soir, Mathieu Robillard. Bonsoir, cher Mathieu.
Bonsoir.
Toujours chef propriétaire du restaurant Bevad à Daouet. Et j'ai appris à le prononcer depuis hier. Vous
Parfait.
Me confirmez bien ce menu.
Exactement. Merci de me recevoir. Et ça sera bien les Saint-Jacques, le produit phare du moment et de la baie de Saint-Brieuc.
Merci beaucoup, chef. À tout à l'heure. Mais d'abord, l'édito de Patrick Cohen. Patrick, la grande question du moment, les médias parlent-ils trop d'Éric Zemmour ?
Eh bien, poser la question, c'est déjà y répondre, puisque je vais vous en parler 3 minutes, qu'on va en débattre pendant 10 minutes, après avoir écouté pendant 1 minute ceux qui s'agacent de cette façon de lui servir la soupe.
Il a marqué le point, Zemmour. Il n'a rien fait, il n'a pas parlé du quotidien des Français, mais on vient de lui consacrer 5 minutes.
Vous pensez, par exemple, qu'on a tort d'en parler en ce moment ?
Je pense qu'il ne cherche que ça, il ne veut que ça.
Je pense que Zemmour, c'est comme le bulletin météo. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Et qu'au fond, on est en train de confisquer le débat démocratique sur le fond.
Je pense qu'on en parle trop, vivement, j'ai envie de dire, qu'il soit à out du débat public.
Donc, un peu marre, un peu ras-le-bol de faire le buzz là-dessus.
Zemmour partout, tout le temps, c'est vrai. Le vrai faux candidat vampiriste depuis les semaines. Les interviews politiques, les éditoriaux, les commentaires de sondages et les plateaux des chaînes d'information qui en tirent en général de bonnes audiences. À noter que la donne va changer au 1er janvier. Le CSA vient de confirmer qu'à cette date, il demandera aux radios et télé de traiter tous les candidats de façon équitable pour leur temps de parole, mais aussi pour les temps d'antenne, les commentaires et analyses consacrés à chaque candidat, comme ce que je suis en train de faire. Impossible, en théorie, de voir encore l'an prochain une chaîne tout Zemmour.
Dernier éclat qui a suscité une avalanche de commentaires, Éric Zemmour pointant une arme, un fusil militaire sur les journalistes qui l'entouraient.
Oui, la première question est de savoir pourquoi Éric Zemmour est entouré d'autant de journalistes, c'est-à-dire un traitement réservé d'ordinaire aux principaux candidats dans les derniers mois de campagne, pour ne pas manquer l'image, la petite phrase ou la déclaration qui va alimenter le débat public des prochaines heures. Là, on a un non-candidat qui visite un salon de l'armement destiné aux professionnels, qui n'a pas prévu d'y faire un discours ou une annonce particulière. France Télévisions avait d'ailleurs choisi de ne pas envoyer hier d'équipe de reportage. Mais à 10h29, le fusil est brandi. 10h36, un journaliste de l'Obs poste la vidéo sur Twitter. 11h15, Marlène Schiappa trouve cela horrifiant, ce qui, venant d'un membre du gouvernement jusqu'ici assez silencieux sur ses discours, devient un fait politique. Midi, Éric Zemmour traite la ministre d'imbécile. Midi 57, l'AFP sort sa première dépêche. 14h, Philippe Corbet sur BFM TV s'indigne à son tour, mais de cette mise en scène et de l'incohérence du gouvernement. La machine à buzz est lancée, elle ne s'est pas arrêtée depuis.
Tout cela au profit d'Éric Zemmour ?
Alors je ne sais pas, en tout cas pas au profit du débat de fond, mais je suis incapable de vous répondre. Ce qu'a montré hier soir l'émission Quotidien, c'est que cette séquence n'était pas préméditée. On y entend l'entourage de Zemmour le mettre en garde avant l'incident, il ne faut pas toucher aux armes. Mmh. Et le réprimander après, eh bien, on t'avait dit de ne pas y toucher, ce qui n'est pas très flatteur pour un aspirant aux plus hautes fonctions. Ce qui est sûr, c'est qu'Éric Zemmour n'a pas peur de se diaboliser, de marcher dans les pas de Jean-Marie Le Pen, d'autant moins peur qu'il parvient à dire bien pire, en tout cas à aller plus loin que Le Pen, sans susciter les indignations, pétitions, défilés qui se dressaient devant le leader du Front National, dans une ambiance de résignation ou d'indifférence ou de conviction fondée sur le précédent Le Pen que crier au scandale ne sert à rien. C'est pour cela d'ailleurs que le tweet de Schiappa a fait justement dresser l'oreille. Enfin, pour ce qui est des journalistes, notre rôle étant non pas de faire campagne contre tel ou tel, mais de montrer le réel. Oui, cette image de Zemmour, fusil dans la main, journaliste à l'autre bout, a une signification. Elle porte un symbole de la part d'un homme qui a promis de réduire le pouvoir des médias. Elle renseigne aussi, d'une certaine façon, sur sa personnalité. La surmédiatisation, le suivi à outrance, peuvent comporter ou révéler aussi des moments de vérité.
Bonsoir Lilian Alemania.
Bonsoir.
Chef du service politique de Libération, auteur d'un billet publié ce matin sur le site de votre quotidien au titre évocateur. Non, Monsieur Zemmour, pointer une arme sur des journalistes n'est pas une plaisanterie. À vos côtés, Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV, où hier à 14h, en direct, vous avez poussé un grand soupir de lassitude.
Franchement, je vais vous dire, on ne va pas faire la campagne comme ça. Ça ne va pas être possible. Parce que cette séquence vidéo de Éric Zemmour provoquant la presse en se mettant en scène avec une arme, nous n'avions pas décidé de la diffuser, par exemple. Mais à partir du moment où une ministre décide de rentrer dans ce débat, de pointer du doigt ce que dit Éric Zemmour, que Éric Zemmour répond à la ministre, que la ministre répond à la réponse d'Éric Zemmour, ça devient un fait politique et donc nous le traitons.
Votre première réaction en voyant cette image, la séquence d'Éric Zemmour au Salon Minipol, c'est de ne pas diffuser l'image alors que vous aviez des reporters sur place qui suivaient ce déplacement.
Oui, c'est-à-dire que quand à 10h29, quand se passe cela, on est informé, notre reporter nous en parle. Et pour tout vous dire, on était en réunion avec la directrice de la rédaction, Céline Pigalle, pendant tout ce temps-là. Et pendant toute la réunion, on se demandait qu'est-ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on fait. Et on s'est dit, au départ, et peut-être qu'on a tort, on s'est dit, au fond, on avait décidé de ne pas la diffuser parce qu'on se disait, mais qu'est-ce que ça nous dit sur Zemmour? Quelle est l'information derrière cette image? On s'est dit, on fait ça. Et puis, il y a le premier tweet de Marlène Schiappa. Et puis, il répond au tweet de Marlène Schiappa en traitant d'imbécile. Déjà, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, à un moment donné, on décide qu'on y va. Et à ce moment-là, je descends en plateau. Et tout ça, ce n'était pas écrit. Et c'est aussi, et je m'en veux d'ailleurs d'être un peu sous le coup de la colère. Et c'est une colère qui n'est pas adressée seulement contre lui ou contre Marlène Schiappa. C'est aussi contre nous, contre ce piège dans lequel nous sommes, de devoir en permanence faire des choix. Et c'est ça le journaliste, faire des choix. Mais là, faire des choix sous la contrainte, d'une certaine manière. Enfin, franchement, le débat public en France, c'est un presque candidat qui se met en scène de façon ridicule, grotesque, menaçante, dangereuse, mais aussi dans un côté, regardez comme je suis viril. Et une ministre, numéro 2 de Beauvau, qui lui répond. Et il répond à la ministre, et elle répond à la réponse. Mais c'est ça le débat public en France. Et c'est pour ça que je dis, on ne va pas faire la campagne comme ça. C'est pas
c'est
ça.
C'est l'absence de fond dont parlait Patrick.
C'est pas ça dont on va parler pendant 6 mois, quand même, de savoir est-ce qu'il faut ou pas parler d'une mise en scène de Zemmour et d'une réponse d'un ministre. Enfin, franchement, c'est médiocre tout ça. Médiocre pour les Français.
Lilian Alemania, à la rédaction de Libération, quand cette image, évidemment, est arrivée jusqu'à vous, vous vous êtes posé les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Mais vous vous êtes dit, non, c'est un candidat. Il n'est peut-être pas déclaré, mais il est candidat à l'élection présidentielle. Oui. Et ce geste, c'est celui d'un candidat. Donc, il faut le commenter.
Oui, on s'est posé aussi la question, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le traite? Est-ce qu'on le traite via, nous, chez nous, le service actualité et on donne une information? On a dit non, ce n'est pas au service actualité de le faire. Et on s'est, en se concertant, en discutant entre nous, en débattant, on s'est dit, il faut qu'on fasse un billet. Il faut qu'on dise, nous, journalistes, non. Monsieur Zemmour, oui, il est candidat. Il faut qu'on arrête de dire qu'il n'est pas candidat parce qu'il est candidat. Il va se déclarer dans quelques semaines. Et c'est tombé dans son storytelling que de faire croire qu'il ne serait pas candidat. Donc, il faut le traiter autrement que les autres candidats. Donc, il faut le traiter comme les autres candidats. Et s'il est candidat à la fonction suprême et qu'il prend une arme et qu'il le pointe là sur des journalistes, mais ça aurait pu être sur d'autres personnes, ça aurait été la même chose. Ne pointe pas une arme sur quelqu'un, y compris. Et encore plus quand on veut être le premier magistrat de ce pays, garant des libertés et de la Constitution. Donc, on s'est dit qu'il fait, moi je dis je le sens, donc j'écris ce billet.
Et vous dites que c'est une intimidation, simple. Ce que fait Éric
oui,
Zemmour.
Oui, il y a quelques jours, il est à Béziers, dont le maire est Robert Ménard, ancien président de Reporters sans frontières, qui a défendu aussi des journalistes qui étaient menacés en France et à travers le monde. Et dans son discours à Béziers, il y a une charge contre les contre-pouvoirs. Il dit qu'il faut enlever du pouvoir aux contre-pouvoirs. Et là, il est face à un contre-pouvoir, les journalistes, et il pointe un fusil. C'est une intimidation.
Même si lui, c'est une plaisanterie.
Non, c'est pas prémédité, mais alors c'est peut-être son inconscient qui parle, j'en sais rien. Mais pointer une arme vers des journalistes qui le dérangent, vouloir mettre en cause l'audiovisuel public, et il le dit suffisamment dans plein d'interviews, et dire après c'est une plaisanterie et ceux qui n'ont pas vu la plaisanterie sont des imbéciles, non, c'est pas une plaisanterie. Oui. Quand on a une responsabilité, quand on
brigue la fonction suprême. Exactement. Pendant 6 ans, vous avez été correspondant aux États-Unis, Philippe Corbet. Là où un certain Donald Trump, pendant des années, s'est attaqué aux journalistes et des attaques quasi quotidiennes contre la presse. C'est le même phénomène ?
Vous avez 3 heures ? Je ne sais pas. Franchement, je me pose la question tous les jours et on me pose la question 50 fois par jour et je ne sais pas.
Il y a une différence.
Si on le compare à Donald Trump, oui. C'est peut-être un peu ce qu'il cherche aussi.
Non, c'est-à-dire que les deux personnes ont beaucoup de différences et moi, je me méfie de la comparaison simpliste de dire « Ah, c'est Trump ». Je pense que d'ailleurs, je pense que c'est une manière de se mettre des œillères.
Il avait parti, lui, il n'a pas le parti.
Voilà, et notamment. Et le système électoral n'est pas le même. En revanche, il y a quelque chose qui est très clair, c'est que sa stratégie ou la manière dont il fait des efforts toujours pour capter l'attention, pour assécher l'oxygène du reste de la classe politique, des médias, c'est la même méthode. Et quand je dis ce problème-là, il se pose au RN, il se pose à LR, il se pose à la majorité, il se pose aux médias, il se pose à tout le monde, il assèche l'oxygène et d'une certaine manière, on est tous piégés. Et ça, Trump a...
Oui, les médias, comme ses concurrents, comme ses rivaux à l'élection présidentielle, comme les autres partis politiques.
Il y a quelque chose qui a changé par rapport aux deux précédentes présidentielles, c'est qu'il n'y a pas de primaire, de vraie primaire. Il y avait des primaires citoyennes en 2012,
il y a eu
des primaires de droite, puis de gauche en 2016 et 2017, et ça focalisait aussi notre attention médiatique sur des questions de fond. C'est-à-dire qu'on a parlé avec Benoît Hamon du revenu universel, on a parlé avec François Fillon du nombre de fonctionnaires en France. Donc on a parlé de fond dans ces primaires, et là, on a une attraction de cette présidentielle médiatique qui est là, et donc on manque de sujets de fond.
Enfin, ce qui a surtout changé, c'est l'écosystème médiatique. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, aussi, le même candidat avec le même incident, ça aurait donné le lendemain dans toute la presse ce qu'on appelle une photo légende. On aurait publié la photo qui est très forte, là, celle que vous avez choisie pour illustrer votre papier. Elle est quand même très, très symbolique. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite recherche comme ça, vite fait. Il n'y a qu'un seul équivalent d'un personnage de premier plan tenant un fusil d'assaut, c'est Poutine.
Il y a Bolsonaro aussi.
Bolsonaro, je ne l'ai pas cherché. Bon, ben voilà, en tout cas, Poutine et Bolsonaro, donc ça.
Donald Trump,
ça dit bien les choses.
Mais, on ne l'a pas vu jouer avec des armes ?
Pas pointant des journalistes.
Non, avec NRA, mais avec un fusil comme ça dans la main,
mais pas
pointant vers qui que ce soit. Mais pour revenir à l'écosystème médiatique, photo légende il y a 20 ans, aujourd'hui, réseaux sociaux plus chaîne d'information, c'est-à-dire instantanéité, fait que les gens se répondent en
et
direct.
Ministre.
Mais bien sûr, et rappelons que si Marlène Schiappa répond. Elle le fait sur Twitter, elle ne fait pas un communiqué, elle le fait sur Twitter. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une sorte d'énorme bulle qui part virale, qui parle de cette séquence. C'est-à-dire que cet événement existe sur les réseaux sociaux. Plein de gens le voient, plein de gens le commentent. Et d'une certaine manière, choisir, et le choix qu'on faisait, et peut-être que ce n'était pas le bon, mais le choix qu'on faisait de... On ne le diffuse pas, c'était aussi un choix de ne pas... Alors même que ça existait, que plein de gens le voyaient sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est compliqué, c'est difficile. On doit faire des choix tous les jours. Parfois, on se gourre. Mais c'est vraiment des questions qu'on se pose tout le temps.
Vous pensez que vous avez fait une erreur ? Il aurait mieux fallu
diffuser
tout de suite ?
Je maintiens que... Enfin, parce que je connais l'impact aussi d'une chaîne comme BFM TV. Et je sais très bien que si on commence à diffuser ça, ça se passe à 10h29, si on commence à le diffuser à 10h40, on donne un écho extraordinaire.
Oui, bien sûr.
Extraordinaire. Et franchement, ces choix-là... On se les fait tous les jours, plusieurs dizaines de fois par jour. Qu'est-ce qu'on fait ?
BFM fait quand même partie de ces chaînes qu'on pourrait dire qualifiées de chaînes tout Zemmour. Je suis désolée, mais depuis plusieurs semaines, on regarde BFM.
C'est ce que nous dit le RN.
Vous parlez tout le temps d'Éric Zemmour.
Alors, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On parle beaucoup d'Éric Zemmour. Mais par exemple, Éric Zemmour a été moins invité sur l'antenne ces dernières semaines que Sandrine Rousseau. par ailleurs...
En temps d'antenne également ?
En temps d'antenne.
Je parle même des liners.
Non, c'est vrai, bien sûr. On parle
elle
plus
a eu moins de temps d'antenne. Elle a eu plus de temps d'antenne sur BFM TV.
Elle a été invitée plus souvent qu'Éric Zemmour sur le plateau de BFM TV.
Temps de parole, donc temps de parole.
En temps de parole.
En temps de parole, pas en temps.
Évidemment qu'on parle plus d'Éric Zemmour. Mais à un moment donné, soyons clairs, c'est quoi? On est tous journalistes, là. Le journaliste, c'est regarder le réel. Et parfois, le réel, il n'est pas. Ce n'est pas juste des petites fleurs avec des oiseaux qui font cucuit. Et parfois, le réel, eh ben, il faut. Ça pique. Et il faut choisir de regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, l'alternative, c'est quoi? C'est de ne pas regarder ce qui se passe dans la société française. Parce que la question, au fond, avec Zemmour, ce n'est pas de savoir ce qu'il fera en avril, le score qu'il fera en avril, ou s'il aura ses 500 signatures. C'est ce que ça révèle aujourd'hui de la société française. Mmh. Qu'autant de Français. Écoute Éric Zemmour parler d'immigration, d'identité, et se disent j'ai envie d'entendre cet homme. Ça dit quelque chose de la société française. Quand la société française ne réagit pas à certains propos d'Éric Zemmour, ça dit quelque chose de la société française et d'une forme de banalisation de certains propos. Et ça, c'est un révélateur, non pas seulement de Zemmour et de la situation politique, mais de ce qu'est la France de 2021.
Mais c'est une question d'équilibre, du coup, aussi.
Hier, Marlène Schiappa a réagi, mais sur les précédents propos polémiques d'Éric Zemmour, que s'est-il passé quand vous avez sollicité la réaction des ministres?
Je prends un exemple, c'est l'exemple que j'ai cité et qui est peut-être pas le bon. Un soir, sur Europe 1, c'était je crois le 6 octobre, Éric Zemmour, dans une interview avec Laurence Ferrari, évoque la circulaire mise en place par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, sur l'accueil des enfants trans à l'école. Il est contre ça.
Bon, il évoque
le docteur Mengele. Moi, je ne m'en rends pas compte. J'écoutais en faisant autre chose. Et des heures plus tard, j'ai un journaliste d'une autre rédaction qui me dit « Mais pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous ne montez pas là-dessus ?»
Cette comparaison avec un médecin, Blanquer au médecin nazi, Mengele.
Mengele, officier nazi, qui était le médecin d'Auschwitz, qui sélectionnait ceux qui allaient se faire gazer et qui menait des expérimentations sur des victimes. Et on se dit, on écoute ça, et à 22h40, on appelle, moi j'appelle mes chefs, on dit « On fait quoi ?» On appelle le ministère de l'Éducation nationale, « Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous faites ?» Est-ce que vous dites... Et on ne sait pas que faire. Et on a décidé, le lendemain, de faire un plateau avec Bruce Toussaint pour expliquer ce qu'est cette circulaire, quelle est la question autour des enfants trans à l'école, qui était le docteur Mengele. On n'a pas fait des titres toute la journée sur, mon Dieu, Mengele contre ceci. Non, évidemment non. Mais c'est dur.
C'est là où il y a une question de dosage, parce qu'on ne peut pas rebondir, faire des billets, faire des articles sur toutes les petites phrases, les horreurs que dit Éric Zemmour. Sinon, on participe aussi à ce fonctionnement qu'il met en place pour se victimiser par rapport aux médias, par rapport à tout ça.
Et n'empêche que ce propos, il a été tenu sur une radio nationale.
Et donc,
nous, on a fait le choix, à des moments donnés, on dit stop.
Voilà.
Et hier, on a dit stop, là. On a laissé passer deux, trois fois, là, c'est stop. Et on n'en fait
pas
trop. On n'a pas monté cette polémique à la une. On n'en a pas fait une double page. On est resté sur une double page sur François Hollande, parce que pour nous, c'était l'actualité politique du jour. Voilà, donc on utilise ce format-là, ce qui n'empêchera pas à d'autres moments de revenir sur, pour voir la vérité, aller voir les proches d'Éric Zemmour ou les soutiens dans les différents meetings, ce qu'on fait également.
Juste une chose, c'est qu'on fait infiniment moins de Zemmour qu'une autre chaîne de télévision où il était salarié récemment. Nous ne diffusons pas en milieu de la nuit des discours d'autres responsable politique pour compenser le temps de parole. Et par ailleurs, moi j'ai parlé infiniment plus, et je pense à quelque chose comme 20 fois plus du pouvoir d'achat sur les plateaux ces dernières semaines que de Zemmour, mais vous m'invitez pour parler de Zemmour, pas du pouvoir d'achat. Moi je pourrais vous parler de Yannick Jadot, d'Anne Hidalgo, du pouvoir d'achat. Vous m'invitez pour parler de Zemmour, vous voyez la situation dans laquelle
on est. On en parle parce que vous soulevez une question qui est intéressante, le traitement médiatique d'Éric Zemmour, et ici même encore hier.
C'est débat dans les rédactions.
Mais oui, voilà, dans toutes les rédactions.
Ce débat-là, et aussi qui agite les partis politiques, et même Emmanuel Macron, qui ne sait pas quelle place accorder aujourd'hui encore à Éric Zemmour.
C'est-à-dire qu'hier, il y avait des ministres qui disaient Marlène Schiappa a fait une erreur politique. Et en même temps, eux-mêmes reconnaissaient qu'ils ne savent pas que faire. Ils ne savent pas quelle est la règle.
C'est le favoriser ou pas?
Encore une fois, reprenons une chose simple. Parler d'enfants accueillis à l'école en France, évoquer Mengele, et que ça ne suscite aucune réaction immédiate de membres du gouvernement, on peut souligner ça. Peut-être qu'ils ont raison de ne pas réagir. Mais que d'un côté, ils ne réagissent pas là-dessus, et qu'en revanche, Marlène Schiappa, voyant cette scène grotesque, fasse un tweet immédiatement et que ça devienne un événement politique. Il y a un deux poids deux mesures qui est troublant, qui est difficile.
Lilian Alemania, en fait, c'est un choix éditorial qui a été discuté. Le fait que votre dernière une sur Éric Zemmour, et qui posait une question presque la nôtre, c'était le 23 septembre, le jour de votre débat Zemmour-Mélenchon, c'est un choix qui n'est pas eu depuis un mois.
Oui, c'est un choix. On a eu un débat collectif au sein de la rédaction. le lendemain de cette une, d'ailleurs, pas sur la une, on avait déjà prévu de faire ce débat tous ensemble, parce qu'il y avait une demande de certains services, notamment les services de fact-checking chez nous, Check News, qui se posaient la question, qu'est-ce qu'on fait avec d'Éric Zemmour, est-ce qu'on le traite, est-ce qu'on ne le traite pas, comment on le traite, d'autres services, le service actualité, nous le service politique, on avait chacun un peu des lignes différentes, donc on a eu un débat tous ensemble, et on a décidé de le traiter pour ce qu'il est, c'est-à-dire un candidat à la présidentielle non encore déclaré, mais qui va l'être, de faire des enquêtes sur ses entourages, qu'on a sortis, sur ses financements, d'aller faire du reportage en allant passer du temps.
Et une story et une à une.
Non, on n'a pas jugé à un moment donné qu'il fallait monter en une. On aurait pu le faire et il y a eu la question en interne à un moment donné sur l'enquête qu'on a fait sur le financement. Finalement, il y a eu une autre actualité qui s'est imposée à ce moment-là. Et surtout, de ne pas rebondir sur toutes les petites phrases qu'il pouvait faire pour ne pas alimenter cette machine. Mais comme je disais, à un moment donné, il faut dire stop et on a des outils rédactionnels et journalistiques pour dire stop.
Mais si vraiment la question était purement une question d'audience, mais nous diffuserions comme font d'autres, du Zemmour, les discours du samedi après-midi. On ne diffuse jamais Éric Zemmour en direct. On l'a invité, notamment dans ce débat, donc là, il est en direct, mais il y avait une contradiction. Donc, Jean-Luc Mélenchon, lors de ce débat, l'autre jour, il a fait un débat avec Alain Duhamel, qui est un journaliste de BFM TV. Et par ailleurs, quand il est sur le terrain, nous avons un reporter sur le terrain, nous ne diffusons rien en direct. On l'a fait, je crois, à deux reprises, dans des échanges avec des journalistes, et notamment une fois parce qu'il était en Corse et il y avait des manifestants, et donc on voulait...
Qui s'opposait à sa
présence. Agitation, et donc on a voulu l'entendre là-dessus. Mais le nombre de fois où nous avons notre reporter sur le terrain qui suit Éric Zemmour, qui vraiment lui pose des questions, et c'est parfois vif, parfois même, il répond de manière agressive, et nous ne diffusons pas ça en direct. On reprend des extraits après, ce qui nous semble important ou nécessaire, mais on ne diffuse pas en direct. Franchement, si vraiment, on disait « super, Zemmour, ça fait de l'audience », mais on diffuserait du Zemmour tous les samedis après-midi dans ses meetings. On ne le fait pas. Et c'est même plus une question. On ne le fait pas.
S'il se met à baisser dans les sondages, vous continuerez à le suivre d'aussi près, Éric Zemmour ?
Eh bien, nous essayons de comprendre pourquoi il baisse, pourquoi est-ce qu'il baisse, et à un moment donné, naturellement, si ce n'est pas le sujet qui marque l'actualité politique, on le suit vraiment, évidemment.
Les coulisses de cette campagne, vous la racontez régulièrement dans le podcast Le Service Politique de BFM TV, qui est disponible sur le site de BFM TV auprès des autres fournisseurs.
Avec tous les reporters sur le terrain qui nous racontent à chaud. Et aussi ces questions-là, qu'est-ce qu'on fait quand on suit Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Yannick Jadot sur le terrain?
Et vous viendrez nous reparler du pouvoir d'achat, Philippe Corbière.
Mais quand vous voulez.
Parce qu'on en parle, nous, très régulièrement sur ce plateau.
Ah oui, c'est pas ce que j'ai dit, évidemment.
Vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité. C'est la story de Mohamed Bouafsi. Salut Mohamed.
Salut Babette, salut à toutes et à tous.
Bonsoir.
Votre story du jour, le récit d'une nuit agitée à l'Assemblée nationale.
C'est cela, ambiance tendue hier à l'Assemblée nationale lors du débat sur le nouveau projet de loi consacré à la crise sanitaire. Un amendement permettra désormais aux directeurs d'école d'avoir la liste précise des élèves vaccinés ou non au sein de leur établissement. L'opposition dénonce une levée du secret médical à l'école.
Vous ouvrez, monsieur le ministre, une brèche impensable dans un secret qui doit être conservé. Les chefs d'établissement en ce moment, et vous le savez, pour une part, rament, effectivement, pour maintenir parfois un lien ténu avec certaines familles. Là, non seulement vous trahissez leur confiance, mais vous trahissez un secret médical qui est gravé.
Je suis quand même particulièrement alertée par cet amendement du gouvernement qui viole le secret médical d'une manière extrêmement grave.
Cet amendement a été adopté dans la nuit à 10 voix près. Les directrices et directeurs auraient seulement accès à deux informations. La première, savoir si un ou une élève est vacciné. La seconde, savoir si les élèves ont été au contact de personnes contaminées. Pour ce statut vaccinal, les données seront conservées le temps de l'année scolaire. Pour le statut épidémiologique, en clair, les résultats des tests, les données ne seront conservées que 2 mois. En revanche, pour les académies, les données resteront anonymes. Pour le gouvernement, cette mesure sert surtout à faciliter le travail des établissements.
Vous dites que ça n'a pas été concerté. Cette mesure est portée par l'Éducation nationale. Elle a donné lieu à une concertation complète de l'ensemble des acteurs. Bien évidemment, vous dites que ça intervient en dernière minute. Mesdames et Messieurs les députés, vous n'étiez pas tous présents en commission des lois, mais la semaine dernière en commission des lois, j'ai déjà annoncé cet amendement dans ma propre discussion générale. Vous dites enfin que c'est improvisé. Il y a peut-être quelque chose qui vous a échappé, mais encore une fois, j'ai de la mémoire. Il y a 3 mois, dans cet hémicycle, cet amendement, vous l'avez voté.
Pour le moment, l'autodéclaration est la norme à l'école. En cas de personne contaminée au Covid dans une classe, l'établissement prévient les parents des autres élèves qui ont été en contact rapproché. Les syndicats des parents d'élèves ne comprennent pas l'utilité de cette mesure.
Cette loi est parfaitement inutile car tous les chiffres à notre disposition indiquent que l'école n'est pas un sujet qui mériterait qu'on fasse sauter le secret médical des enfants. Ensuite, cette loi est aussi honteuse car elle insinue que les parents sont des menteurs, que les parents enverraient les enfants malades et seraient susceptibles du coup volontairement de contaminer leurs camarades de classe et les personnels encadrants.
L'initiative ne fait pas l'unanimité du côté des équipes pédagogiques. Les syndicats des personnels de direction des collèges et des lycées expliquent qu'ils ne sont pas demandeurs de cette mesure. Dans le primaire, en revanche, l'initiative est bien accueillie par les parents et les syndicats. C'est fini.
Ah, pardon. Je pensais qu'il y avait un sonnant d'un parent d'élève, pardon. Ce débat-là, il vous inspire quelle réflexion? Alors, ce n'est pas le pouvoir d'achat, hein, Philippe Corbet.
Non, mais nous avons beaucoup plus parlé sur l'antenne de BFM TV de ce sujet-là aujourd'hui que de Zemmour.
Voilà. Pour en dire quoi? C'est une question légitime que soulèvent les parents d'élèves, les syndicats enseignants?
C'est un sujet...
Compliqué. c'est une question légitime. Ce qui est intéressant, c'est la bataille politique aussi qui reprend. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de différend. Vous l'avez voté il y a trois mois.
La
situation était différente. Et aujourd'hui, on commence aussi sur ces questions-là à refaire de la politique. On se rapproche de la campagne présidentielle. Et donc, on voit à droite et à gauche des clivages qui reprennent. Ouais.
Le procès de l'affaire de la sextape se déroule depuis hier et jusqu'à demain au tribunal correctionnel de Versailles.
Oui, ce sont des faits dont on parle depuis 6 ans, des faits retentissants quand ils sont révélés, car à l'époque, ils concernent deux stars de l'équipe de France, Mathieu Valbuena et Karim Benzema, et que ces faits tombent au plus mal parce que nous sommes à ce moment-là à 7 mois de l'Euro 2016 en France.
L'affaire Benzema dérange et secoue le monde du football. Sa mise en examen aujourd'hui ternit sa carrière et hypothèque sa place au sein de l'équipe de France.
Quand Didier Deschamps entre en scène, tout le monde attend des révélations sur l'affaire Benzema-Valbuena. Mais le sélectionneur national ne veut parler que d'une seule chose, la composition de son équipe.
Je me doute que vous avez beaucoup de questions extra-football. Je n'y répondrai pas.
Alors cette affaire a commencé le 6 octobre 2015 au centre d'entraînement Clairefontaine quand un soir Karim Benzema donne rendez-vous à Mathieu Valbuena dans sa chambre pour lui parler d'une vidéo intime qui mettrait Valbuena en scène avec une femme, la fameuse sextape. Karim Benzema assure alors à son coéquipier qu'il peut l'aider en lui présentant son ami d'enfance Karim Zenati, car lui serait en mesure de pouvoir récupérer cette vidéo et même de la détruire. Ce que ne sait pas encore Karim Benzema, c'est que Mathieu Valbuena a déjà alerté la police de l'existence d'une sextape et que la police a déjà commencé son enquête pour retrouver les maîtres chanteurs. Enquête qui aboutira finalement à 5 mises en examen. Celle de l'homme qui aurait volé la fameuse vidéo sur le téléphone de Mathieu Valbuena, celle de 2 maîtres chanteurs dont l'un est présenté comme l'instigateur et qui a d'ailleurs présenté ses excuses cet après-midi à Mathieu Valbuena. Aussi celle de Karim Zenati, l'ami d'enfance de Karim Benzema, qui aurait joué le rôle d'un intermédiaire. Et puis Karim Benzema, lui-même, mis en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs. Décision qui secoue immédiatement le football français. Tout le monde se demande si les deux joueurs vont pouvoir jouer ensemble en équipe de France. Karim Benzema finit par s'exprimer aux 20h de TF1 et veut rester positif.
Bah, comment elle va se terminer? J'espère bien, parce que j'ai rien fait. Moi, je suis pas coupable. Et je joue pas avec les caméras, je joue pas un jeu, moi. Je suis là pour être sincère comme je le fais. Donc j'espère que ça va bien se terminer, qu'on va tous être bien, que ce soit Mathieu, moi.
Ça ne va pas se terminer aussi bien qu'il l'espérait. Karim Benzema, alors meilleur buteur de l'équipe de France en activité, ne sera pas sélectionné. Ce qui lui fera dire que Didier Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. Mais Mathieu Valbuena non plus ne sera pas sélectionné. Sentiment pour lui de subir une double peine. Hier à la barre, il a confié avoir eu très peur pour sa carrière. Peur justifiée. Valbuena n'a plus jamais été rappelé par l'équipe de France. Un seul regret aujourd'hui pour lui, l'absence de son ex-coéquipier à ce procès.
Aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on a cette affaire. Je constate que tout le monde est là, c'est-à-dire qu'il manque Karim. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, nous on va jusqu'au bout. Et ça fait 6 ans qu'on attend cette affaire, que ça soit derrière moi. Et on est là jusqu'à le temps qu'il faut pour finir que tout cela soit derrière moi.
Maître Antoine Veil, l'avocat de Karim Benzema, il est ce soir notre invité. Bonsoir Maître Veil, bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Merci de votre présence au terme de cette deuxième journée d'audience marquée par les réquisitoires. Vous plaiderez demain et le jugement sera rendu, devrait être rendu demain dans la foulée des débats. Votre client pourrait donc être condamné ou relaxé dès demain au terme d'un procès auquel il n'aura pas assisté une seule seconde. Lui qui pourtant à plusieurs reprises, pendant l'instruction, a réclamé une confrontation. Là, c'était l'occasion. Finalement, ça ne l'intéressait plus ?
Non, pas du tout. Il a fait comme font tous les justiciables quand ils ont une obligation professionnelle. Il a fait valoir cette obligation. Il jouait la veille du procès. Mardi, ce week-end un match très important. Il aurait pu formuler une demande de renvoi. Mais il a préféré ne pas le faire parce que ça aurait tout décalé encore de un an ou un an et demi. Le tribunal a estimé que ce n'était pas nécessaire. Et je rappelle quand même que pendant l'information, il a fait à 4 reprises la demande d'être confronté et que la juge d'instruction l'avait refusé au motif que ça ne servait à rien de confronter 2 ressentis. C'est ça la motivation du juge.
Le ressenti de Karim Benzema et celui de Mathieu Valbuena, voilà, qui lui est venu à regretter l'absence de son ex-coéquipier et qui a fait l'effort de venir lui
Encore une fois, ce n'est pas une question d'effort.
Il va devoir renoncer à des matchs avec son club.
Je comprends bien qu'on puisse présenter la chose en termes de... Mais en fait, ce sont des sportifs de haut niveau. Monsieur Benzema, il a besoin de se concentrer sur son objectif sportif. D'ailleurs, cette affaire a toujours été quelque chose de difficile à vivre pour lui parce qu'un sportif de haut niveau ne doit pas être déconcentré. Il a fait le choix de se faire représenter par ses avocats. Mmh. La loi lui permet de le faire, comme tout justiciable. Et donc, le procès a quand même pu se conduire et continue à se conduire. Demain, on plaidera pour lui. J'ai envie de dire, il n'est pas au-dessus des lois, il n'est pas au-dessous des lois. Il a fait ce que peuvent faire... tous les justiciables, et le tribunal l'a accepté comme ça.
L'a accepté, même si cette absence pourrait lui nuire. Le président du tribunal était agacé encore aujourd'hui. Il ne comparait pas, mais en plus, il ne fournit aucun élément sur sa situation financière. Tous les prévenus présents avaient répondu à ces questions, aux questions sur leurs ressources, pas Karim Benzema.
Non, mais d'abord, il a fourni toutes ses explications pendant 5 ans d'information judiciaire. Il a été interrogé, donc ce qu'il a à dire, c'est su. Deuxièmement, ses revenus, excusez-moi, mais ils sont assez transparents. Peut-être parce qu'on n'avait pas envie qu'ils soient commentés comme un fait public. On les a transmis en fin d'audience. En ça, ce n'est pas véritablement, et j'espère bien que le président n'est pas agacé par des détails pareils. Par contre, il est clair que... il y avait des éléments à discuter dans ce procès. Ils ont été discutés, ils seront encore discutés demain. Mais en ce qui concerne M. Benzema, ils sont très simples. 2 écoutes téléphoniques, c'est tout.
Avec son homme de confiance.
Un avec son homme de confiance, un avec une autre personne, autour desquels on a glosé énormément. Et nous estimons qu'il n'aurait jamais dû être envoyé devant le tribunal correctionnel. Parce que ce pourquoi il est condamné, c'est finalement le ressenti de M. Valbuena, et que pour chacun et la chronologie qui convient, ils ont cette discussion le 6 octobre. M. Valbuena n'en fera état que le 21 novembre, après avoir été entendu 2 fois par les enquêteurs. Il n'en parlera jamais. Mmh. Et à partir du 21 novembre, quand il sait que M. Benzema lui en veut parce que M. Benzema pense que c'est M. Valbuena qui a fait fuiter l'information, alors à partir de là se noue une espèce de tension entre les deux hommes qui font que peut-être que le ressenti de M. Valbuena a été modifié. Cependant, moi, je tiens à dire que l'un comme l'autre sont restés quand même dans une ligne sportive qui leur a permis quand même de continuer à se voir. Donc, on est très, très loin d'une complicité de tentative de chantage.
Que Karim Benzema voulait rendre service ? Non, c'était une démarche bienveillante.
Je ne veux pas être loin du dossier. Ce n'est pas aussi simple que ça. Pour revenir au dossier, il n'a fait qu'une seule démarche. C'est de transmettre à son coéquipier l'information selon laquelle un de ses amis était capable de faire en sorte que la vidéo ne soit pas diffusée.
C'est la version de tous les prévenus. Hein. Tous disent on veut aider.
Non, mais c'est la version qui se dégage de l'information. Après, avec des prévenus qui sont...
Arrêtez de nous faire croire que vous êtes Mère Teresa.
Non, mais attendez. Il y a des prévenus, ils sont nombreux. Et en fait, ils n'ont aucun lien avec M. Benzema. Il y en a un seul qui a des liens avec M. Benzema, qui est son meilleur ami.
Karim Zenati.
Voilà. Et à part ça, absolument aucun lien. Pas de téléphonie, pas de contact direct, pas d'écoute téléphonique. Donc c'est ça un dossier judiciaire, si vous voulez, c'est comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ça a duré 5 ans et il s'est passé pas grand-chose. Une conversation auquel M. Benzema n'est jamais revenu et il a laissé le choix à M. Valbuena d'agir ou pas par rapport à un tiers. Donc si vous voulez, le problème, c'est ce que j'entendais M. Benzema dire le soir des faits. il a dit ce qu'il avait à dire, il a fait ce qu'il pensait devoir faire, et il ne comprend pas pourquoi on caractériserait ça comme une infraction pénale. Voilà, donc demain, nous le plaiderons, et on espère véritablement que les juges, sur la base d'un ressenti, ne vont pas condamner un homme à quelque chose de pénal, et on espère qu'il sera relaxé.
Dans les réquisitions, le procureur a réclamé un an de...
Oui.
10 mois de sursis.
10 mois de prison, avec sursis et 75 000 euros d'amende.
Il y a quelque chose qui, je ne sais pas si ça a été commenté, parce qu'elles ont été prononcées cet après-midi, qui, moi, m'a particulièrement choqué. C'est que c'est la première fois que j'assiste à un procès dans lequel le procureur a ouvertement dit que M. Benzema ne devait pas être jugé comme n'importe qui. Ça veut dire qu'on n'a plus de principe d'égalité devant la loi. Comme je l'ai dit, M. Benzema...
Au nom de ce qu'il représente ?
Oui, au nom de sa notoriété, au nom de ce qu'il est. Et ça, véritablement, je trouve qu'on franchit encore une ligne. Que des gens connus bénéficient parfois de conditions judiciaires un petit peu étranges, c'est devenu, j'ai envie de dire, habituel. Mais là, qu'on requiert ouvertement, publiquement, que parce qu'il s'appelle Benzema, il devrait être condamné plus lourdement, je trouve que c'est inacceptable. Et j'espère que le tribunal rétablira un équilibre dans ces réquisitions qui sont, à mon sens, infondé et surtout qui pose difficulté. Quand on est connu, quand on doit donner l'exemple, on doit quand même être jugé.
La thèse de la substitut du procureur qu'elle a développée dans ses réquisitions, c'est de dire qu'il a cautionné, à défaut d'avoir élaboré ou pris part au chantage, il a cautionné, c'est-à-dire qu'il avait conscience de ce qui se déroulait et qu'il a laissé faire.
Non, mais on est en train de parler du ressenti d'un magistrat sur le ressenti.
C'est dans l'écoute aussi, c'est le nom qui figure dans l'écoute, qui montre un intérêt commun avec son interlocuteur.
Oui, mais dans la même écoute, vous verrez quelques lignes plus loin que M. Benzema dit à son ami, sans savoir qu'il est écouté, qu'à la fin de la conversation, M. Valbuena l'a remercié. C'est difficile d'imaginer que quelqu'un qui fasse l'objet d'un chantage remercie son interlocuteur. Ces écoutes téléphoniques, c'est le problème des écoutes, c'est qu'elles disent à une phrase quelque chose, la phrase suivante une autre. Et il faudrait pouvoir se placer dans la tête et de l'un et de l'autre pour savoir ce qui s'est passé.
Ce qu'on entend dans la conversation avec Karim Zenati, c'est qu'ils en plaisantent, ils sont hilares en évoquant la situation de Mathieu Valbuena. Donc imaginez que c'est par bienveillance et que c'était uniquement pour aider un camarade.
Encore une fois...
C'est là où l'intention...
D'accord. Le tribunal, il n'est pas là pour savoir si c'est bienveillant ou pas bienveillant, s'ils sont sympathiques ou non pas sympathiques. Il est là pour savoir s'il y a eu de la part de M. Benzema une complicité de chantage. C'est une infraction pénale. Or, M. Benzema, d'abord, M. Valbuena dit toujours que le ton a été cordial et amical. Deuxièmement, il lui a laissé le choix. Troisièmement, il ne lui a pas proposé de payer. Et quatrièmement, il lui a dit, moi, à mon sens... si ça peut te rendre service, je rappelle que M. Benzema avait été victime de la même chose. Donc il dit, moi je ne me sentais pas bien d'avoir comme coéquipier quelqu'un à qui ça pouvait arriver. Mmh. Après, chacun en tire les interprétations, et vous savez, M. Benzema a sa conscience pour lui. S'il s'agit de savoir ce que lui a ressenti quand il a dit ça, et ce que M. Valbuena a ressenti quand il l'a entendu, c'est assez loin du processus
juridique. Mais qu'est-ce qu'il ressent, Karim Benzema, de la situation dans laquelle se trouve Mathieu Valbuena ? Là, il y a un des prévenus, un des maîtres chanteurs présumés, qui s'est carrément excusé. Franchement, je suis désolée de ce qui t'arrive. Est-ce que Karim Benzema est désolé de la situation actuelle de Mathieu Valbuena, qui n'a jamais été rappelé en équipe de France, contrairement à lui ?
Non mais on n'a pas besoin d'opposer quelqu'un qui est victime d'une chose avec quelqu'un qui est faussement accusé d'une autre.
Il avait exprimé des regrets, en tout cas, quant à la conversation téléphonique.
On peut quand même essayer d'avoir un équilibre. C'est des sportifs de haut niveau. L'un et l'autre ont joué ensemble. C'est demain, devant le tribunal, on produira des photos dans lesquelles ils sont l'un avec l'autre. Alors, ce qu'a expliqué M. Valbuena, c'est qu'il dissimulait son vrai ressenti par respect de l'équipe de France. Il y a quand même eu plein de gestes de la part de M. Benzema pour essayer d'atténuer les choses, rappeler qu'il n'avait jamais cherché à faire chanter M. Valbuena, c'est tout l'inverse. Je rappelle que la vidéo n'est jamais sortie et que ce qu'a cherché à faire M. Benzema, avec une méthode que chacun commentera, en tout cas indiscutablement, c'est qu'elle ne sorte pas. Donc il a, d'une certaine façon, du mal à comprendre d'abord le déferlement médiatique qui a eu lieu, parce que c'était les fuites de presse avant même qu'il ait pu s'expliquer, les commentaires sur les commentaires. Et puis aujourd'hui, d'entendre peut-être que le parquet demande qu'il soit jugé pas comme n'importe qui... C'est vrai que ça fait un petit peu frémir de l'entendre. Il a le droit à la présomption d'innocence, il a le droit à être entendu et il a le droit aussi à être respecté par rapport à ce qu'il représente et pas être jugé différemment des autres.
Le jugement sera donc rendu demain. Merci beaucoup Antoine Vey d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir à toutes et à tous.
Alors on continue ce soir la visite du salon Millipol entamée hier soir.
Oui, et regardez,
c'est chouette.
Il n'y a pas que Éric Zemmour qui joue avec des fusils, il y a aussi notre reporter Iban Raïs comme un petit garçon sur ces images de la caméra d'Audrey Payas. Ce grand salon, pour quitter le sujet Zemmour, plus sérieusement, salon de l'armement, de la sécurité, pour la police, les militaires, équipements de protection, couteaux, gilets pare-balles, drones, lunettes de visée, des robots aussi ce soir. On va s'arrêter sur le Taser 7, puisque c'est le nouveau pistolet à impulsion électrique qui équipe la police. Il est en cours de déploiement, démonstration.
Monsieur, ne bougez pas. Attention, j'ai un Taser dans la main, j'ai 50 000 volts. Monsieur, ne bougez pas. Montrez-moi vos mains, ne bougez pas. Attention, dernier avertissement. Monsieur, Taser, Taser, Taser.
Madame Robin, on voit sur le flyer de Taser qu'il y a écrit donc le pouvoir d'apaiser les conflits. Comment on apaise un conflit avec un taser ?
Sur un pistolet à impulsion électrique, vous avez des lasers, vous avez un arc de dissuasion. En police et gendarmerie nationale, les statistiques, c'est environ 85% des cas qui sont réglés grâce à cette dissuasion. Donc on ne tire pas, en fait.
Comment vous expliquez qu'il y a des cas, alors certes peut-être minoritaires, mais dans lesquels le taser est impliqué dans la mort d'un individu ?
C'est pas une arme qui est infaillible, vous voyez. Donc l'idée, c'est pas de dire est-ce qu'il y a des morts, il n'y en a pas. Il y en a. Enfin, je veux dire, c'est avéré, vous voyez, au niveau mondial. Mais il y en a très très peu en proportion par rapport à d'autres armes.
Plus simple encore, pardon, que le taser pistolet, le stun glove, ce gant, c'est quasiment Marvel, une décharge de 50 000 volts dans la paume de la main. Regardez.
En fait, c'est un gant à impulsion électrique qui permet de, d'abord, dans un premier temps, dissuader les intervenants ou les assaillants, et dans un deuxième temps, de, si besoin, les contrôler. C'est absolument non létal, ni pour le cœur, ni pour le cerveau, et ça permet surtout de dissuader et de contrôler les assaillants.
Donc là, j'ai les deux gants.
Je vais les activer.
Vous l'activez, ok, super. Et donc, en fait, ça peut donner un effet... ouais, c'est gentil, merci, ça peut donner ça, quoi. Là, c'est un peu Iron Man, quand même, là. Mais l'idée, c'est que je vous dissuade, en fait, comme ça. Ah, vous reculez déjà, là.
Oui, l'objectif, c'est que clairement, j'ai peur. Je m'écarte.
D'accord.
Je me contrôle, je me calme.
Alors, ce gant n'est pas utilisé en France, mais déjà en Russie, en Israël. Ah bon. Soyons plus simples, moins technologiques, pour terminer avec ce stand de couteaux pour militaires. On vous présente ce soir le CAC, Combat Action Campagne.
Alors ça, c'est la version campagne, donc le troisième acronyme, campagne, qui effectivement va vous permettre assez facilement, vous avez vu la surface, d'étaler du pâté et évidemment d'accompagner la nourriture française d'un petit vin que vous pourrez ouvrir assez facilement avec le tire-bouchon. Donc en fait, vous avez le seul couteau tactique du monde avec un tire-bouchon, il est français, on en est fiers.
Moi, je suis plus tartine de pâté que couteau d'attaque ou gants électriques, personnellement. Au moins, on peut se rejoindre là-dessus. Sachez que c'est la même entreprise qui fournit les couteaux de Top Chef.
La mort. L'affaire de la mort de Gabi Petito, oui. Voyageuse américaine dans Le Petit Ami, est toujours recherchée.
Alors, une histoire d'amour, un voyage en couple et un dénouement tragique. On va revenir sur l'affaire qui émeut l'Amérique. Mais d'abord, l'info, des restes humains ont été retrouvés près d'affaires appartenant au Petit Ami, Brian. C'est le dernier développement de l'enquête.
Investigators found what appears to be human remains, along with personal items, such as a backpack and notebook belonging to Brian Laundry. These items were found in an area that up until recently had been underwater. It's likely the team will be on scene for several days. I know you have a lot of questions, but we don't have all the answers yet.
Gabrielle avait 22 ans et avec son compagnon, donc, elle racontait sur ses réseaux sociaux leur voyage en van aménagé à travers les États-Unis. Rien d'extraordinaire, les vacances de beaucoup de jeunes de leur âge. Ils sont partis le 2 juillet, elle a cessé de donner des nouvelles fin août. Et lui est rentré seul le 1er septembre. Il est d'abord resté silencieux, parfaitement mutique, malgré les implorations de la famille de Gabrielle, malgré même ses appels de manifestants devant chez lui. Le hashtag Where is Gabi, où est Gabrielle, avait été lancé le 19 septembre. C'est le corps de la jeune fille qui est retrouvé dans la zone même où elle a cessé de donner des nouvelles. Pas très loin de cette dernière image du couple. Regardez, c'est une image filmée par la caméra embarquée, caméra piéton d'une équipe de police qui les avait interpellés après une dispute.
SO229, I had the female that was on the passenger seat separated from the male.
We would have been fighting all morning and you would have let me in the car before. And then
why wouldn't he let you in the car? Because of your OCD?
Told me I need to calm down. Yeah.
You want to tell me about those scratches on your face?
She had a cell phone in her hand. That's why I was pushing her away. Let's just take a minute, step back and breathe. And
après avoir refusé de coopérer avec la famille comme la police, Brian est introuvable depuis le 17 septembre et l'avocat de la famille de Gabriel affirme que les restes retrouvés sont très probablement ceux du corps de Brian, le petit ami de Gabi Petito. Alors évidemment, cette histoire a fasciné les États-Unis. Philippe Corbet, il y a aux États-Unis un autre mouvement. On a entendu des hashtags, des conversations sur les réseaux sociaux sur le fait qu'on en parle surtout. Oui. Parce que c'est une jeune fille blanche.
Oui, blanche et blonde et jeune et jolie et présente sur les réseaux sociaux. Et au fond, pourquoi est-ce que l'Amérique a été autant fascinée pendant des semaines par cette histoire? Parce qu'il y a des disparitions, il y en a régulièrement. Parce qu'au fond, elle incarne une forme de pureté jeune et virginale d'une sorte de dans le psyché américain, quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de fantasme collectif. En tout cas, il y a eu des débats là-dessus sur pourquoi avons-nous été fascinés, enfin je parle aux États-Unis, fascinés par cette disparition-là.
Combien d'argent de poche faut-il donner à ses enfants?
Une étude réalisée par une société de moyens de paiement. À quel âge vous donnez de l'argent de poche à vos enfants déjà? À quel âge on commence selon vous? Avant de vous demander combien? 7 ans et demi. Cette étude nous apprend que c'est à partir de 7 ans et demi, oui, 7 ans et 4 mois même précisément, on reçoit de l'argent avant même le smartphone. Là, à présent, vous allez pouvoir mesurer combien reçoivent les enfants.
Ils font des courses, les enfants.
Selon leur âge. L'étude nous apprend que les parents, vous voyez, selon l'âge, là, les moins de 10 ans, c'est sous les 10 euros, jusqu'à 30 euros pour les 15-17 ans. L'étude nous apprend que les parents estiment qu'il est important de parler d'argent à leurs enfants, de les responsabiliser. Un autre enseignement de l'étude, et je dois dire que je suis tombé de ma chaise, Babette, comment voulez-vous qu'une jeune fille demande à être payée autant que son collègue masculin quand elle recevait déjà moins d'argent de poche que son frère? C'est effarant. À âge égal, on donne 4 à 5 euros de moins aux filles qu'aux garçons. Surprenant pour nous, moins pour la chercheuse Angèle Jeannot que Louis Amar et Anaïs Recouli ont rencontré. La famille reproduit les inégalités de genre.
Incroyable. Les parents, ce qu'ils veulent, c'est pas que leurs enfants soient complètement autonomes financièrement. Hein. L'argent de poche, c'est pas lié à ça. On donne de l'argent pour apprendre à gérer. Donc si on donne pas le même montant, bah, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'apprendre différemment à gérer l'argent. Par exemple, quand ils vont être en couple, eh ben, ils auront des rapports différents à l'argent, ce qui peut entraîner en fait un accroissement des inégalités entre hommes et femmes au sein du couple. Il ne faut jamais penser que les femmes seraient par nature plus dépensières, par nature plus économes, par nature plus radines, etc. Mais que ça vient bien de ce processus de socialisation. Il y a aussi tous les travaux qui montrent qu'il y a des rapports à la propriété différents, justement. Est-ce que ce jouet est à moi ou est-ce qu'il ne l'est pas? Un ensemble de travaux qui montrent bien les rapports au corps différenciés des filles et des garçons, notamment le fait que les filles sont davantage incitées à maîtriser leur corps. Et donc oui, la famille reproduit des inégalités.
On est d'accord que ce sont des moyennes, cela dit, et que personne ne donne 10 euros à l'un, moins 4 à sa fille en même temps. Mais 4 à 5 euros de moins pour les jeunes filles que pour les garçons. Alors je vais passer à un autre enfant qui n'a pas encore d'argent de poche, mais qui va coûter cher à ses parents. Le petit Finlay en Arizona, enfin petit, un bébé de 6 kg 400 grammes à la naissance, 60 cm, né par césarienne à 2 semaines du terme, il aurait pu grandir, grossir encore. Un bébé, classiquement, c'est entre 2,5 kg et 4,3 kg. Alors 6,4 kg, forcément, la maman, Carrie, était la star de la maternité.
They got him on a scale like 14.1. I've never seen it that big. The doctors and one of the sweetest nurses there, they were all taking like selfies with us. They asked permission, of course, but they were just so pumped.
Alors je disais qu'il va coûter cher à ses parents parce qu'ils peuvent déjà donner tous les vêtements de naissance 3 mois, 6 mois qu'ils ont achetés. Finlay fait déjà le poids et la taille d'un bébé de plus de 9 mois. Et puisqu'on parle de grand format, transition bizarre, est-ce que vous connaissez Big John?
Non.
Big John, c'est le nom de ce squelette de dinosaure, le plus grand tricératops au monde. Avec son crâne de 2 mètres de large, il était présenté chez Drouot avant la vente, avant d'être mis aux enchères aujourd'hui.
C'est incroyable. C'est la première fois qu'on voit ça et il est magnifique.
Avec sa grande gomme comme ça, il peut battre un Tyrannosaurus Rex. Il est comme ça et là après il donne un gros coup.
Vente aux enchères, je la suivrai, mais pas pour acheter le dinosaure derrière.
Moi je le verrais bien au salon.
Et il passerait nulle part, même pas dans la plus grande pièce de la maison.
La vente chez Drouot, c'était cet après-midi. Je vous laisse découvrir les enchères.
Et nous débutons les enchères directement à 1 million d'euros. 1 million 100. 1 million 200. 900. 2 Allô millions. Allô 2 millions, c'est moi, c'est pas ici. 3 millions. 4 millions. À 5 500 000, c'est vu. Adjugé, 5 500 000.
Ce qui qui fait plus de 6 650 000 euros avec les frais. De plus en plus de ces squelettes de fossiles sont achetés par des collectionneurs privés. C'est une mode qui inquiète les conservateurs de musées qui ne peuvent pas s'aligner. Par exemple, ce tyrannosaure vendu aux enchères l'an dernier, là on est sur le roi des lézards, les enchères avaient atteint les 32 millions de dollars, sans compter la maison avec 6-7 mètres de hauteur sous plafond.
Voilà, et pour ce qui est l'acheteur du Triceratops,
Big John.
Voilà, j'ai un ami qui était dans la salle à Drouot, c'est Olivier Dringsin qui m'a décrit l'acheteur comme étant un Américain, un noir Américain au faux air d'Obama.
Ah, c'était peut-être Barack Obama, non, faux air.
Et apparemment, ça n'était pas lui.
C'est des faux airs.
Incroyable, merci beaucoup. Est-ce que Big John sera à la une de Libération demain, Lilian Alemania?
Non, dans le Mali, avec des reporters embarqués avec les forces de Barkhane.
Et sur BFM, le sujet du jour, ce sera forcément les annonces de Jean Castex ce soir.
Le pouvoir d'achat, je retourne sur BFM TV pour décrypter ce qu'aura dit le Premier ministre.
Jean Castex qui parle sur TF1 aux alentours de 20h.
20h07.
20h07, on a... d'ici là, restez sur C'est à vous. Merci beaucoup Antoine Vett. Restez sur C'est à vous parce que c'est une voix rauque que vous allez entendre dans un instant sur le plateau. Une voix qui s'est imposée dans le paysage musical français avec un refrain qui est devenu un tube. Je
veux d'amour, c'est un collectionneur, le mec.
Et depuis, c'est bien simple, Zoff n'a pas arrêté. 9 ans de tournée, de concerts, de compositions effrénées et 8 passages sur le plateau de C'est à vous.
Bonsoir Zaz.
Salut.
Allez, venez Zaz.
Bonsoir Zaz.
Zaz, je vais avoir besoin de vous.
Zaz repart en tournée.
Salut Zaz.
Salut.
Zaz. Zaz.
Zaz.
Zaz.
Zaz.
Zaz.
Zaz.
Zaz.
Elle est vraiment là.
Elle est vraiment là.
C'est vraiment
là.
Zaz.
C'est vraiment Zaz.
Waouh.
Merci beaucoup Zaz.
Merci à vous.
Merci à vos musiciens. Un dernier coucou en 2018 et puis plus rien pendant 3 ans. La chanteuse a appuyé sur la touche pause, le temps de prendre soin de sa voix et de laisser la jeune femme Isabelle exister à côté du tourbillon Zaz. Elle est ce soir notre invitée. Bonsoir Zaz, bonsoir. Bienvenue sur le plateau, bonsoir. C'est à vous. Enfin, je dis Zaz, on devrait plutôt dire Isa.
Bah, c'est la même.
C'est la même.
Ouais, j'avais envie qu'elle meure à un moment et puis ça va mieux. Mais je suis
vous vouliez carrément qu'Isa meure parce que ouais. c'est le diminutif de votre vrai prénom.
Isabelle, ouais.
Isabelle, ouais. Et c'est le titre de cet album. Vraiment, vous aviez envie que cette...
Ouais, je pense que j'avais besoin d'une sacrée pause, quoi. J'avais besoin de renourrir Isa. J'avais un peu zappé ma vie perso.
Et... À force de quoi? À force de ce tourbillon?
Ouais,
de...
bah, d'intensité, de... c'était génial. Il y avait plein d'opportunités, de privilèges, d'expériences, de voyages. Enfin voilà, j'ai tout bouffé, j'ai tout mangé, quoi.
3 ans sans chanter, sans faire de concert et ouais. Sans venir à C'est à vous. On vous a un peu manqué ou pas?
Oui. Mais je suis triste, vous ne faites plus de musique.
Comment
si,
ça?
Vous ne faites plus de concert.
Ben si, mais vous nous en faites un, vous, tout à l'heure.
Ah, d'accord.
Ben attends, bien sûr, on arrête pas.
Je croyais. Sylvie Vartan et Grégory Porter
d'accord,
cette semaine.
D'accord, alors.
Ah, ben à vous, vous nous faites un concert, surtout.
Ah oui, oui, oui.
Un medley avec oui. Un ancien
à Guillaume. À Guillaume, ouais.
Un Guillaume, vous appelez ça?
Avec Guichto, avec mon pote guitariste.
Ah non, j'ai vu que vous appeliez les medleys un Guillaume.
Ah mais non, non.
Vous nous faites un Guillaume. Vous étiez épuisé, mais vous êtes de retour. Ouais. Et vous étiez attendu, hein, parce que pour l'instant, déjà des dates sont annoncées. Elles sont complètes. Il y a 2 dates au moins complètes. Elles se sont vendues en un jour. Et c'est des salles de 1250 personnes. Vous êtes soulagé? Vous n'aviez pas peur qu'on vous oublie pendant ces 3 années?
Non, non, j'avais pas peur qu'on m'oublie. J'avais besoin de m'occuper de moi et j'avais envie de repartir sur une tournée avec des salles plus petites pour retrouver la proximité avec le public. Parce qu'on a la toute dernière tournée, on a fini avec les États-Unis et on a fait des théâtres et j'ai retrouvé justement cette proximité. Je me suis dit, mais ça me manque ça, j'ai besoin de retrouver ça.
Parce que vous étiez un peu perdue?
Non, mais je pense que c'est la vie en fait. Il y a des moments où on vit des choses et puis je pense que j'aurais dû m'arrêter, j'ai pas su le faire et je regrette rien, c'est très bien en fait.
Et puis il y a eu le confinement, ouais. Qui est arrivé par là, donc c'est...
Ah, ça a appuyé bien ma décision, ouais. Ouais.
Oh, ouais. Finalement, c'est cool, ouais. Vous en avez profité. On parle longuement d'Isa, le 5e album de Zaz dans un instant. Le temps de remercier Maître Antoine V, Philippe Corbet et Lilian Alemania. Merci, merci messieurs, à tout de suite pour le Vu, la story média, l'œil de Pierre. Elodie, n'est-ce pas vous ?